C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps...
Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens ?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC.
Finalement, c'est aussi pour retrouver une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième.
Dans notre monde à nous, 1 plus 1 égale 2, 2 ouais. plus 2 égale 4, comme ça on devient selfish. Mais c'est 1 plus 1 égale 1, ou peut-être que 1 plus 1 égale 11.
Dans le podium, c'est quoi? C'est dans les 3 ou dans les 5?
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
En compagnie de Kevin Diaz avec Walid Acharchour, avec vous au 32-16. Vous êtes très nombreux ce soir encore sur le chat de la chaîne YouTube de l'Afterfoot. Merci de votre fidélité. Il y a Céréel, il y a Florian qui est là, il y a Brad Pitt, il y a Philippe également qui est là, bien sûr, t'es là, Olivier Tom, hein, bien sûr, Bilal, Powell qui est là également, Gaël, bien sûr, on vous embrasse. Merci de votre fidélité. J-1 avant le quart de finale de l'Euro 2024 entre la France et le Portugal. On a disséqué la conf de presse de Kylian Mbappé, on a évoqué le duel entre Koundé et Raphaël Léon qui devrait avoir lieu demain également. Qui va remporter la bataille du milieu de terrain de ce France-Portugal? Venez nous le dire au 32-16. On va se lancer là-dedans également. Et puis supporters de l'équipe de France et de l'équipe du Portugal, venez nous dire de qui, de quoi vous avez peur également avant demain. Juste pour débuter sur la bataille du milieu, on rappelle que Rabiot est suspendu côté français.
Grosse perte pour l'équipe de France.
Mais qu'on devrait avoir pour les Bleus un milieu composé par Kanté, Tchouaméni, Camavinga ou Fofana. Pour le Portugal, on devrait avoir d'entrée Vitinha, Palinha et Bruno Fernandes. Vous voyez qui remporter cette bataille du milieu de terrain finalement?
Ça dépend parce que ça dépend ce que décide de faire le Portugal. Si le Portugal joue un jeu de possession haute.
C'est ce qu'a annoncé Martinez. Après, on verra demain.
C'est-à-dire que ça va être simple, hein. Le Portugal a beaucoup plus de qualité technique. Donc, ils vont gagner la bataille technique. Mais est-ce que la bataille physique va être remportée par les Portugais dans les impacts et dans les duels? Ça, c'est autre chose. Sachant que l'équipe de France est toujours très à l'aise lorsqu'elle joue quand même loin du but adverse, et que aujourd'hui Pep, que j'adore, est loin de... Je ne peux pas critiquer Pep, c'est impossible. C'est une légende absolue du football, en tout cas du mien. Mais aujourd'hui, avec 40 mètres dans le dos et Kylian Mbappé ou même Marcus Thuram, ça peut être quand même compliqué. Même si on a un Ruben Dias et un Nuno Mendes qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, fait un excellent travail de couverture et souvent, un peu à l'image de ce que fait Théo Hernandez aussi, a fait pas mal de très beaux retours pour suppléer ses défenseurs centraux. D'ailleurs, il joue un peu comme troisième défenseur central quand le Portugal a le ballon pour laisser plus de liberté à Cancelo. Peut-être aussi pour utiliser justement sa puissance, son explosivité. Donc en fait, ce ne sera pas qu'une bataille du milieu, ce sera forcément une bataille collective qui fait qu'en fonction des plans de jeu et surtout, mais moi je vois quand même la France très très à l'aise en mode, je baisse pas
c'est
la garde.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis d'accord avec toi là-dessus.
Et boum, si je t'en mets une, ça va faire mal.
C'est pour ça que, limite, je me suis demandé tout à l'heure si Mbappé, avec son délire de je peux pas jouer en profondeur, c'est pas limite de l'intox, j'en sais rien. Je suis dans la parano aussi, moi. Je suis dans la parano pareil que vous, les mecs. Là, je suis déter.
Tu dors ce soir?
Non, mais c'est peut-être demain soir que je vais pas dormir.
Est-ce que tu regardes le 8ème en replay ce soir pour te remettre dedans?
Non. Non, mais
est-ce que tu regardes la finale 2016 pour te remettre dedans?
Non. Mais tu sais que moi, pour moi, je suis resté Keblo sur les matchs d'avant, moi. C'est.
Ouais, Euro 2000
France.
Euro 2000?
Bah, 84, 2000, ouais. 2006.
Non, mais 2016, ça.
Mais 84, t'avais
non, pas, je te jure, ça a pas lavé. Non, et moi, je te jure, demain, j'ai peur du braquage d'un péno pourri, d'un truc comme ça. Vraiment.
C'est ce qui va se passer, de toute façon.
Mais c'est ce que je te dis. Non, le CSC, à la limite.
Est-ce qu'on est d'accord sur la stat que l'équipe de France, dès qu'elle va en prolongation, elle est éliminée?
Donc, est-ce que quoi? Ah oui, il y a ça. Ouais. Oui, mais bon, c'est pareil, à un moment, il faut que ça s'arrête, tu vois.
Oui, bon.
Enfin, en prolongation, ça remonte jusqu'à quand?
C'est-à-dire?
Dans son histoire,
dans l'histoire de.
Oui, mais le problème, c'est que tu me parles prolongation. Alors, ok, il y a 2016, tu vas me dire. Mais moi, tu me parles prolongation France-Portugal, mais je pense direct à 2000.
Mais
t'es obligé, gros, c'est le traumatisme absolu pour notre génération.
Mais t'es un malade ou quoi?
Mais c'est le traumatisme absolu, mec.
Tu penses pas à 2016 avant 2000?
Mais bien sûr que non.
Ah ouais, toi,
mais regarde, moi je suis la génération des 90, le match contre l'Italie, Marc Bata en 97-17, le Portugal-Allemagne, on mène 1-0, Rui Costa qui marche, là, Bata qui va avoir Rui Costa, deuxième jaune, carton rouge, Conceição qui l'en a fait. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Et derrière, la praline, partout, on n'y va pas, la Coupe du Monde en France. C'est ça pour moi les France-Portugal. Je m'en fous de 2016 moi. Enfin, je m'en fous pas, mais bon.
T'es complètement fêlé en fait.
T'es un grand malade.
Mais non, mais moi, les gars, je te raconte. Le foot, c'est la souffrance pour moi.
Non, mais
t'as pas tort. Ça, t'as pas tort.
C'est l'émotion.
Pas du tout, les gars. Le foot, c'est que du bonheur.
Oui, d'accord.
Non, c'est pas du bonheur.
Moi, je vous le dis. C'est le moment de souffrance qui revient en premier.
Non, moi, je suis pas d'accord. Moi, pour moi, la France, c'est France 98, c'est Euro 2000.
Pour moi, c'est France 2006.
Pour moi, le Portugal, c'est Euro 2016. En plus, j'étais quoi? Je pense que j'étais le premier supporter derrière le but d'Eder, tellement j'étais proche de la pelouse, j'ai même pas vu le ballon rentrer, tu sais, il est rentré au sol. J'ai juste vu remonter dans le filet. C'était dingue. Voilà, donc il y a un moment, non, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, le football, c'est d'abord le plaisir, mais bon. Et même dans un France-Portugal.
Mais est-ce qu'on peut pas avoir du plaisir dans la souffrance?
Non, moi je suis pas d'accord.
Ça s'appelle du masochisme. Bien sûr que si, on peut. Bien sûr, on l'a le droit. Non, mais c'est vrai, c'est une partie.
Moi, je suis pas totalement.
Moi, c'est inconscient. Je déconne quand je dis ça, mais même si c'est vrai pour certaines personnes, chacun aime ce qu'il veut après tout. Mais enfin.
Après, là, on parle de football, hein, on parle pas de.
Oui, mais justement, voilà. Moi je pense qu'inconsciemment.
Il n'y a jamais de souffrance dans le football.
Quand t'es supporter, t'es obligé. Moi, il n'y a que cette équipe que je supporte.
Mais Algérie-Cameroun, j'ai souffert.
Non, mais d'accord. Non, mais.
Je vais te dire, tu souffres.
C'est quoi le but de Toko Ekambi?
Voilà. Ah, tu fais semblant.
Eh les gars, vous savez quoi? Parce que là, les appels commencent à pleuvoir sur le chat, ça vient également. Donc on va commencer par ça. Mais vous avez peur de qui, de quoi avant le match de demain? Bon, moi, je viens de le dire. Petit jingle quand même.
Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de qui?
Voilà.
Mais vous rigolez, mais
Roger Lemaire.
Ça, je l'ai déjà dit à mes joueurs.
Hein?
Mais Jacquet, pas Roger Lemaire.
Mais je sais, c'est un problème.
Je l'ai déjà dit à mes joueurs. Vous avez peur de qui? Vous avez peur de quoi? Si vous allez perdre, vous allez perdre, les gars.
C'était quand?
Je sais plus, c'était. Ah, je vais te dire, c'était.
Non, mais ça... pas toi, Aimé Jacquet.
Ah, hein. Tu te compares à Aimé Jacquet, là?
Non. Non, j'allais te dire si j'avais une belle anecdote.
Mais Diaz, il a un jacquet dans chaque.
J'avais utilisé la phrase d'Aimé Jacquet, mais Benjamin, je pense, dans les années 2000, et dans ces Benjamins-là, il y avait un certain Riffy Mandanda.
Et Benjamin Pavard.
Ah oui. Ah ouais.
Riffy Mandanda, frère de.
De
Hugo Lloris. Il y a les je crois même trois frères Mandanda au jeu à Saint-Maurice.
Supporter des Bleus demain.
Bien sûr.
T'as peur de quoi? De qui?
Enfin, j'ai peur de quoi? J'ai peur de me faire chier, moi, déjà, parce que.
C'est tellement bon, ça.
Moi, en fait, je suis supporter des Bleus, mais à un moment donné, ma vision du foot me rattrape et j'aimerais.
T'es un pragmatique.
Oui, j'ai plus les émotions, c'est la vérité, mais j'aimerais qu'on gagne, je dis pas en jouant comme Guardiola, mais en produisant un peu plus que ce qu'on a fait contre la Belgique et en donnant un peu plus d'émotion qu'un but contre son camp, de Vertonghen.
T'as peur de quelqu'un au Portugal?
Moi, sincèrement, cette équipe portugaise depuis le début de l'Euro ne me fait pas forte impression. Je l'ai dit. Je trouve que même le match contre la Turquie est surfait. C'était une équipe béturque avec ce deuxième but qui a été donné par le gardien et le défenseur.
Gros adversaire que va affronter la France.
Oui, bien sûr. Mais je te dis juste que pour moi, les ondes que j'ai du côté du Portugal, et tu connais mon avis sur Roberto Martinez. Je suis pas un grand fan du tout de Roberto Martinez. Donc j'ai pas. Moi, pour moi, la France est favori et la France va passer et doit passer. Moi, c'est plus contre la.
Doit passer carrément. Ouais.
Attendez, les gars, juste parce que. Ça vient de se terminer entre la France et le Paraguay, match de prépa de l'équipe de France Olympique. Paul Lafitte, large victoire des Bleus qui avait mal démarré pourtant.
Oui, Nico, qui était mené 1-0 sur un but de Juan Saceldo après 3 petites minutes. Et puis il a eu la réaction de Mateta juste avant la mi-temps pour l'égalisation, un but partout. Retour des vestiaires, un pénalty après un arbitrage vidéo et le doublé de Mateta, 2-1. Le but de Ryan Cherki, entré à l'heure de jeu pour le 3-1. Et puis finalement, c'est Arnaud Kalimuendo, l'attaquant du Stade Rennais, qui enfonce encore un petit peu plus le clou pour permettre aux Bleus de s'imposer 4-1. Donc belle entrée en matière à 21 jours des Jeux Olympiques. Le prochain rendez-vous pour les Bleus, on le rappelle, ce sera le 11 juillet face à la République Dominicaine à Toulon. Donc une belle victoire ici à Bayonne pour les Bleus qui s'imposent 4-1.
Le quatrième but des Français est extraordinaire dans sa conception collective. Sincèrement, j'ai vu ça avec un maillot de l'équipe de France, j'ai bugué. Vraiment, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe là? Vraiment, refaites-vous le quatrième but, il est complètement fou.
Utilisation des couloirs.
Oh, là, c'est franchement qualité technique, vraiment très bon.
Sans prendre une touche
en retrait, Kalimuendo.
Merci beaucoup, Paul, en tout cas. Bon,
bonne soirée
à toi. On va accueillir, il y a pas mal d'appels au 32-16 là. Vous avez peur de qui, de quoi avant le France-Portugal de demain, que vous soyez supporter des Bleus ou de la Stressa? On a Rodolphe qui nous a appelé au 32-16. Salut Rodolphe.
Salut les gars, vous allez bien?
Ça va et toi?
Salut Rodolphe.
Bah, ça va, pas trop mal, je viens de finir le travail, donc tout va bien.
Tu fais quoi dans la vie, Rodolphe?
Je suis représentant dans la grande distribution.
Ah, et tu vends quoi?
Ah, je vends de la compote.
Ah ouais, tu vois.
ouais.
D'accord.
La grande marque nationale de gourdes, je vais pas la dire à l'antenne, mais...
Quoi, Pompote?
Andros? Non, ouais, exactement, Pompote, exactement. Voilà,
c'est ce que je donne à ma fille.
Ah, okay. Voilà.
Nico, il attend les compotes.
Tu peux envoyer un paquet à RMC.
Je suis un grand fan de compote, moi.
complètement monté à Paris et je viens.
Je suis un grand fan de compote. Pour moi, la pomme banane vanille en ce moment, c'est celle qui.
C'est ce que je donne à ma fille d'ailleurs.
C'est celle qui met.
Pomme banane vanille.
Pomme banane vanille. Des bons mélanges.
Elle est extraordinaire.
Ouais, il y a des trucs sympas.
Après, moi, je suis plus chez. Comment ça s'appelle? Il y a une autre marque.
Alice, non.
Ouais, voilà.
Après, moi, c'est sans goût, toi.
Mais sans sucre.
S'il te plaît, Rodolphe, sans sucre ajouté.
Ouais.
Ouais, pas de soucis, les gars.
Alors, Rodolphe, t'es supporter de qui?
Des deux.
D'accord. Et donc, demain, t'es pour qui alors?
Les deux.
D'accord, ok. Et qu'est-ce qui te fait peur demain? Les deux, ok.
Il me fait peur les deux coachs, pour être honnête avec vous.
Toi, t'es comme Walid, t'as peur de t'emmerder, quoi.
Bon, déjà, je suis pas fan de Roberto Martinez, personnellement. Quand t'arrives à arriver en conférence de presse, c'est-à-dire que tu sors Vitinha parce que l'état de la pelouse n'est pas bonne. Du moins, rien que ça, déjà, moi, ça m'en fout. Et puis Deschamps, Martinez, c'est. Du moins, c'est pas le même combat, mais c'est des mecs qui vont nous sortir des trucs demain, des compositions un peu. Un peu bizarre parce qu'ils ont.
Après, j'ai l'impression qu'on a tellement dit que ça allait être une purge que ça va être un match de coup.
3-3
Ouais, non, mais ouais. Tout le monde le dit, on le. C'est...
Après, attention, on s'attendait à une purge contre la Belgique, ça en a été une.
Oui, c'est vrai. mais après, le débat en lui-même, et ce qui
on
est intéressant.
On s'attendait pas à une purge contre la Slovénie, ça en a été une aussi.
Parce que tu dis qu'en conférence de presse, Roberto Martinez a expliqué qu'il allait jouer au football. En tout cas, qu'il allait avoir le ballon.
Il a dit que c'était ses intentions.
Moi, je pensais aussi que Tedesco allait le faire avec sa composition d'équipe. Quand je vois la compo de la Belgique, je me dis, ouh, attention, là. Doku Openda derrière Lukaku, Kevin De Bruyne un peu plus reculé, Carrasco et Castagne en piston. Je me dis, il va peut-être jouer ou en tout cas être impactant dans la surface de réparation adverse. Et au final, c'était tout le contraire. C'était deux lignes de quatre. Il a fait jouer Doku piston. Openda et Lukaku étaient sur la même ligne. Et il a essayé de faire du Deschamps en se disant bon, on va pas se faire carotter comme la dernière fois sur les deux dernières affrontements entre la Belgique et la France et au final crac, il a pas joué, et la France s'est qualifiée. Donc moi je me dis attention, je suis pas sûr que le Portugal laisse des espaces à l'équipe de France et joue véritablement son jeu.
En tout cas une chose est sûre, on va
parce
en parler.
Parce que Roberto Martinez il a Deschamps dans sa tête depuis 2018.
Une chose est sûre, c'est que les Pays-Bas, eux qui aiment bien avoir le ballon. Ils l'avaient dit direct, ils l'ont fait tout le match. On laisse le ballon à l'équipe de France, de toute façon, ils ne savent pas faire.
Exactement.
Avec.
Les Pays-Bas aussi ont fait la même chose. Et je les avais trouvés très frileux.
Mais c'était clair. Hein.
Ouais, non,
mais moi, je pense comme Walid que. Je pense que Martinez, on en parlait tout à l'heure dans le 2022, mais dans le Génération, il est tellement. Il a un tel complexe d'infériorité vis-à-vis de Deschamps que là, il se dit qu'au-delà du fait qu'il doit gagner. Il veut lui faire une leçon tactique. C'est en mode, moi j'ai des vrais joueurs de ballon, ce que tu disais tout à l'heure. Techniquement, on a des joueurs qui sont au-dessus, notamment au milieu de terrain. Je vais pas faire ton jeu à toi. Je vais te montrer qu'on peut gagner en jouant. Mais c'est ce qu'il a dit en conf d'ailleurs.
Ouais, mais c'est ce qu'il a dit.
Ultime
qu'il
question. Je sais
moi,
pas.
Moi, je sais pas parce que
tu peux pas battre Deschamps
en faisant
du Deschamps, c'est impossible.
Vas-y, Rodolphe.
Tu pourras jamais être aussi chiante que son équipe, c'est impossible.
Rodolphe, surtout avec les joueurs que tu as. Parce que pour vous, le milieu du Portugal est au-dessus du milieu français?
Techniquement, oui, mais après... tactiquement et physiquement, je trouve que non, mais ouais, techniquement, ouais. Oui.
Non, mais je parle depuis le début de l'Euro, les gars, réellement. Bruno Fernandes, Bernardo
Silva. Ah non,
ça dépend de comment on parle, en réalité. Mais moi, Vitinha, je trouve que Vitinha, il fait pas moins un bon Euro que Kanté, par exemple.
Hein?
Vitinha fait pas un moins bon Euro que Kanté.
Oui, enfin, après, oui.
Non, mais on parle de deux joueurs extraordinaires d'un côté comme de l'autre. Mais quand tu vois Bruno Fernandes et Bernardo Silva qui sont des.
Mais Bernardo est offensif dans cette équipe, mais enfin, c'est un milieu, ok, mais.
Dans les poids lourds de cette équipe et qui sont catastrophiques depuis le début de l'Euro, parce que je suis désolé, moi, les gars, hein, la France, ils sont pas.
Alors, je vais dire, Rod, tu veux que je te réponde à ça? Pour moi, Bruno Fernandes, compare-le à Griezmann, alors. Parce que c'est un peu le même registre, c'est des mecs qui peuvent jouer dans l'axe ou dans le ou qui ont joué couloir, même si c'est pas là.
Non, au contraire, moi, je mets Bernardo Silva et Griezmann dans la même case dans ce que veulent faire les deux coachs, c'est-à-dire le milieu de terrain un peu supplémentaire qui va s'incorporer.
Ouais,
parce qu'en y réfléchissant, mais les deux équipes, elles sont pas si éloignées dans leur conception.
Ah non,
on a à part Cancelo et Koundé, qui sont deux joueurs quand même totalement différents. Mais il va mettre Palinha qui va être un peu le garant de l'équilibre. Nuno Mendes, qui comme Théo Hernandez, va essayer de prendre la gestion de la profondeur.
Si, il y a la charnière quand même. Pour moi, à part Saliba et Diaz, pour moi, Pep, t'as pas d'équivalent en face.
Non,
Ronaldo,
mais non, je te parle, non, attention, je te parle pas de
tu
niveau.
Parles de l'équilibre.
Je te parle de conception.
Ouais, je suis d'accord.
De coach. Donc tu vas avoir, bon, c'est des profils différents.
Ouais, mais t'as raison, je pense que tu veux dire. Je suis assez d'accord.
Bruno Fernandes et Vitinha et un Kanté ou un Rabiot, ce sont des profils différents.
Ouais,
mais
ouais.
Juste que dans le fait d'avoir un Léao, joueur déstabilisant, comme peut l'être Kylian Mbappé sur le côté gauche, un numéro 9, bon, Ronaldo et Thuram et Kolo Muani ont des profils très très différents, mais t'as un espèce de numéro 9, c'est pas si. Alors qu'on peut se dire que oui, techniquement, le Portugal, normalement, est bien, bien meilleur, mais dans la conception, je préfère le Portugal. dans la conception de joueurs, mais finalement on n'est pas des années-lumière. Et je pense que ça peut faire effet miroir demain. Hein.
C'est pour ça qu'on s'attend à une purge.
Ouais. Non mais
Rodolphe, merci d'avoir été avec nous en tout cas. T'avais une question, c'est ça?
Merci à vous. Bah non, juste vous dire merci pour l'intervention. Merci à Walid et à Kevin que je suis sur l'ensemble de l'année.
Merci.
Et que je trouve très très. Les deux sont très pertinents.
Bah, déjà qu'ils ont le boulard, si tu dis ça.
Merci Rodolphe.
Grave, si tu me mets à la hauteur de Kevin, ça va. Franchement, je suis content.
Si tu mets à la hauteur de Walid, par contre.
Si je suis à la hauteur du prof. En plus, il m'a pas fait le prof ce soir. Oh, le prof, c'est juste de 20h à 22h, je crois.
Non, continuez comme ça, en tout cas, c'est toujours un plaisir de vous écouter.
Salut Rodolphe.
Et puis que le meilleur gagne demain, et puis voilà.
J'adore le prénom Rodolphe, qui est celui de mon cousin que je salue. Mais
qui est celui de notre nouveau patron, surtout Rodolphe Sadé, qu'on embrasse, bien sûr.
Bien sûr.
Est-ce que j'ai 10 secondes juste pour faire une dédicace?
Oui, vas-y, de toute façon, c'est le thème de la soirée. Vas-y.
Ouais, alors je fais une dédicace à mon club du Football Club de Mirefleur, avec lequel on est monté d'une division cette année, ce qui est historique avec ces gars-là. Alors,
vous êtes en quelle division, là?
Alors, on était en D2, on monte en D1 départemental, ce qui n'avait jamais été fait pour ce club. Je suis juste le coach de ce groupe extraordinaire et je voulais faire une dédicace.
Faut monter, c'est quoi? C'est R3, faut monter en R3 l'année prochaine.
Mais R3 c'est trop compliqué, il faut arrêter de rêver.
Non, sky is the limit.
ouais, sauf que quand t'as pas d'installation, tu peux pas tout faire.
Ah. Écoute, Rod, merci en tout cas, le message est passé. À très vite, Rodolphe, à bientôt.
Bonne soirée.
Ciao, bon match à toi. Demain.
Nico, oui. Par rapport au débat qu'on a eu sur la première heure, j'ai routier 8-7-2 sur
t'es sur Caramel?
Non.
Sur
Twitter.
C'est ton Skyblog.
Sur Twitter qui je pense a roulé sa bosse vu son pseudo.
Ouais.
Qui dit
excellent.
Qui nous marque nous trois en disant: vous vous rappelez la réaction de Mbappé quand Giroud, avant juste l'Euro 2021, avait eu le malheur de dire des fois les ballons arrivent pas. Après un match amical contre la Bulgarie, me semble, au Stade de France, Mbappé était venu voir Giroud en lui disant son mécontentement. Et il avait dit en conférence de presse qu'il était venu le lendemain en conférence de presse en disant: ça ne m'a pas plu ce qu'a dit Olivier, on en a parlé, etc. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Donc, tous les gens sur le chat qui disent oui, mais ça n'a pas d'importance. Quand je vous dis si Griezmann avait dit ça de Mbappé, il y a des exemples et il me l'a rappelé. C'est vrai que je l'avais complètement oublié celui-là.
On rappelle que l'équipe de France Espoir s'est imposée en match de préparation ce soir, 4-1 face au Paraguay. Dans un instant, le mercato de l'OM qui continue de s'agiter, ça parle de Youssef Attal, Mason Greenwood, Brice Samba également qui intéresserait l'OM, les infos mercato, Johan Crochet qui sera avec nous avant le quart de finale des Pays-Bas à l'Euro face à la Turquie. À tout de suite sur RMC avec Kevin Diaz et Walid Acharchou.
C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps, attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
Avec Walid Acharchour, Kevin Diaz, 23h20, vous êtes sur RMC avec nous, merci d'être là. On a longuement parlé du quart de finale de l'Euro qui nous attend demain sur RMC entre la France et le Portugal. Vous avez été nombreux à nous appeler au 32-16. Ça continue d'envoyer sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. Les mecs, ils s'arrêtent pas, que ce soit Mbappé, Griezmann, les matchs dans le match de demain.
Il y a du rythme.
Ah, il y a du niveau.
Ouais, il y a du niveau, je vois, je lis tout.
Ils sont là pour nous accompagner.
Ouais, exactement.
Ils sont là pour nous accompagner. Demain, 18h, Espagne-Allemagne, 21h, France-Portugal. Donc, samedi.
Quelle journée, quand même.
Pas mal demain.
À demain.
Et cette partie de tableau, elle est quand même ouf. Hein,
tous les jours, c'est Friday.
Et tout, il y a un peu ça, oui. Elle est quand même ouf, cette partie du tableau de cet Euro. Et puis samedi, les deux autres quarts de finale de l'Euro. À 18h, Angleterre-Suisse. À 21h, Pays-Bas-Turquie. Et ce Pays-Bas-Turquie, il y en a un qui va le suivre avec attention. C'est notre Johan Crochet qui est avec nous. Salut Johan.
Salut Nico, bonsoir à toutes et à
tous. Johan.
Comment il va celui-ci?
Bah, on attend non pas vendredi, mais samedi.
Bon, quand même, demain, tu vas suivre, non?
Oui, c'est le football champagne pour France-Portugal. Et puis,
ou pas d'ailleurs.
Non. Enfin, en tout cas, j'ai vu les matchs du Portugal et de l'équipe de France sur la phase de groupe et le 8e. Je me suis pas régalé. Hein, donc, on verra. Mais le Espagne-Allemagne me botte plutôt pas mal, me hype bien.
On verra ça donc demain. Et puis donc samedi, donc je le disais, hein, 18h Angleterre, Suisse, 21h Pays-Bas, Turquie. Alors, toi en tant qu'amateur également du foot néerlandais comme Kevin, si t'es là, c'est parce que t'avais envie de faire un focus sur Cody Gakpo, enfin Gakpo, l'attaquant de Liverpool qui est l'actuel meilleur buteur de l'Euro. Hein, il a 3 buts avec les Néerlandais. Pourquoi tu voulais d'ailleurs t'arrêter sur lui précisément?
Parce que en fait l'autre soir après la victoire des Pays-Bas, on discutait un peu avec, il y avait Daniel dans l'émission et puis on avait commencé à faire un focus sur lui, mais on avait fait assez brièvement le point et en réfléchissant après, je me disais j'étais vraiment convaincu que les Pays-Bas devaient construire autour de lui sur le secteur offensif parce que Memphis Depay, on verra si Koeman restera ou non, mais Memphis Depay, on se rend compte que bah ça commence à devenir vraiment compliqué pour le coup lui en tant que faux numéro 9, même s'il y a un mais je rappelle qu'il n'était pas appelé quand même avant le début de la compétition et qu'il a été en cours de préparation parce qu'un autre attaquant, Brian Broby, s'était fait mal au mollet et que si Koeman est là, je ne vois pas du jour au lendemain changer et mettre installer Zirkzee alors qu'il n'avait même pas appelé là. Donc, et puis à droite, c'est un peu incertain.
Pourtant, Nagelsmann l'a fait avec Emre Can par exemple.
Ouais, on verra. Il peut changer d'avis, Koeman, mais quand
même. C'est vrai que ça n'en prend pas la tournure, quoi.
Bah c'est ça et c'est un peu décevant. Alors peut-être que si Zirkzee ne joue plus à Bologne la saison prochaine, mais je sais pas, à Milan ou à United, ouais, ça
sera plus considéré.
Avec l'exposition, ça sera peut-être un peu plus convaincant pour Koeman. Mais vraiment, on l'avait déjà vu à la Coupe du Monde 2022. Hein. Il était vraiment le seul joueur qui sortait du lot offensivement de cette équipe-là. Et 2 ans après, enfin 18 mois après, rien n'a changé. Et malgré son âge, voilà, il a 25 ans, il vient d'avoir 25 ans. Donc, est-ce qu'on peut encore le considérer comme jeune ou pas jeune? Mais il vient seulement d'atteindre ces derniers mois le très très haut niveau en club avec Liverpool. Je pense vraiment que le statut qu'il est en train d'avoir doit être définitivement entériné par Koeman dans les semaines à venir.
Alors justement, parce que tu parlais de Liverpool également, il a rejoint Liverpool il y a un an, hein, il a inscrit 16 buts, il a donné 6 passes D en 53 apparitions, il n'a pas toujours été titulaire. Toi, tu considères quand même que c'est une saison en demi-teinte encore pour lui, c'est ça?
Non, c'est pas, enfin, en demi-teinte, plus d'apprentissage, avec des joueurs qui, évidemment, devant lui, sont plus forts aujourd'hui. Salah, Luis Diaz, Núñez, sachant que bon, à la limite, tu pourrais discuter avec Núñez, mais comme c'est pas du tout le même poste, ça se discute pas tant que ça. Et finalement, quand on regarde sa saison en club, je prends simplement le championnat, son temps de jeu moyen, c'est 47 minutes. C'est le 12e joueur de l'effectif qui a joué le plus de minutes, donc c'est bien une sorte d'impact player ou en cas de turnover parce qu'il a fait 17 titularisations sur 35 apparitions en première ligue. Donc il n'a pas encore le statut de joueur important d'un très gros club en première ligue. Peut-être que ça viendra. Je rappelle que Arne Slot est arrivé déjà et sera l'entraîneur la saison prochaine. Alors au-delà de tous les tartes à la crème, c'est deux Néerlandais ensemble dans un club, mais malgré tout, ça compte un petit peu aussi parce que Arne Slot le connaît très bien. Peut-être qu'il pourra avoir un petit peu plus de temps de jeu et asseoir sa domination comme il le fait avec les Pays-Bas. Mais vraiment, il y a aussi un espèce de cap qui va devoir passer parce que j'ai repris un peu tous les buts qu'il a marqués en sélection et je vais vous dresser la liste des adversaires et vous allez vite comprendre où je veux en venir. Monténégro, Pays de Galles, Pologne, Sénégal, Équateur, Qatar, Grèce, Irlande, Gibraltar, Pologne, Autriche, Roumanie. Voilà, on l'attend aussi dans les matchs qui vont compter contre les grosses équipes ou dans les matchs à élimination directe, puisque lors de la Coupe du Monde 2022, il avait marqué dans la phase de groupe à chaque fois, à chaque reprise, dans chaque match, mais il n'avait pas marqué ensuite en huitième contre les États-Unis ni en quart contre l'Argentine. Bah là, il a marqué la première fois contre la Roumanie, mais ça reste un adversaire assez modeste. Demain, la Turquie, c'est encore un adversaire qui est censé être moins fort que les Pays-Bas, mais on tape là un quart de finale, donc ça commence à devenir un niveau intéressant. Et dans sa progression, il faudra qu'il soit en capacité d'emmener les Pays-Bas derrière lui, non plus simplement sur les phases de groupe où les Pays-Bas sont malgré tout supérieurs à leur adversaire, même si on a très bien vu dans cet Euro que ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faudra aussi, lorsque les tours vont avancer et que les grosses sélections vont arriver, bah, qu'ils soient en capacité de faire la même différence et porter un peu les Pays-Bas, parce que autour de lui, en tout cas, je parle pas du milieu, je parle pas de la défense, mais autour de lui, offensivement, que ça soit Memphis Depay ou Xavi Simons ou Bergwijn, À l'exception de Daniel Malen qui, quand il entre, fait des différences, c'est un peu morne pleine là.
Ouais, et pourtant, le paradoxe, c'est que le Pays-Bas, c'est la troisième meilleure attaque de cette Euro. Ils ont claqué 7 buts et que tous les buts ont été marqués par des attaquants finalement. Alors, tu l'as dit, Depay, c'est qu'un but, Weghorst aussi. Malen met les deux, mais finalement, offensivement, même statistiquement, c'est pas si dégueu. Même en termes de XG, je crois que c'est la première équipe.
Non, mais après, moi, je. D'ailleurs, j'ai envoyé un message à Walid pendant le match. J'ai été agréablement.
D'habitude, c'est sur Balerdi là. À chaque fois qu'il m'envoie un message pour du foot, c'est sur Balerdi là.
Bruno Fernandez sur Ronaldo.
J'étais très surpris qu'il me parle des Pays-Bas.
Ouais, d'accord. Non, mais je les ai trouvés vraiment très intéressants et rafraîchissants. Et Johan, je ne sais pas si tu le fais aussi, mais je suis le site, enfin un des sites qui suit les Pays-Bas au quotidien. Et je trouve qu'il y a pas mal de sourires dans cette sélection. Alors oui, il y a eu un petit imbroglio avec Veerman qui a eu.
Quoi que tu regardes
comme
site?
C'est Orange. En gros, c'est
l'once de l'ange. Le truc officiel.
Le truc officiel. Mais je trouve que, alors certes, c'est peut-être de la com, mais j'ai pas l'impression. Tu vois, cet après-midi, je voyais Virgil van Dijk qui a un peu la même coupe là que Xavi Simons, qui avait les cheveux tirés. Virgil van Dijk qui regarde Xavi Simons en disant à la caméra, c'est mon fiston. Tu vois, je sais pas. J'ai l'impression que souvent aux Pays-Bas, il y a eu des petits soucis en interne, etc. Entre ceux de l'Ajax, ceux du Feyenoord, ou alors des fois c'était le Suriname avec les Hollandais, enfin bref, il y avait des caractères qui avaient du mal à vivre ensemble, mais là j'ai l'impression en tout cas
le groupe vit bien.
Non mais tu as raison en l'occurrence, et je pense que ce qui s'est passé aussi autour de la phase de groupe dans cette équipe là les a soudés, les nombreuses critiques qu'ils ont reçues en provenance des Pays-Bas, des plateaux télé, des émissions de radio, des journaux, et c'est pas des petites critiques hein. On a lu des trucs vraiment extrêmement violents sur la sélection néerlandaise de la part d'anciens d'ailleurs internationaux, de la part de journalistes, de consultants et chroniqueurs. Je pense que ça les a aussi un petit peu soudés, et on le voit à chaque fois en conférence de presse. Il y a toujours un mot, notamment quand c'était très dur pour Joe Herman, il y avait toujours un petit mot pour lui en disant, bah voilà, on essaye de faire en sorte que, de lui redonner le sourire déjà, parce que quand il est sorti à la 30e minute de jeu, bah c'est pas génial.
Et d'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, il y avait des gens qui disaient après le match que c'était mort, que sa carrière, elle était terminée.
Ouais.
J'ai trouvé ça assez audacieux de la part de Koeman de le refaire rentrer dans un match où c'était pas encore acquis le résultat, tu vois, et il l'a fait rentrer quand même pour dire
les gars, juste on marque une pause, on poursuit le débat dans quelques instants. On parlera également de Xavi Simons hein. Est-ce qu'il est déjà un taulier des Pays-Bas? Il a 21 ans, Xavi Simons, lui aussi il divise pas mal, il sort d'une grosse saison pourtant avec Leipzig malgré ses quelques 21 ans. On revient dans un instant avec Johan Crochet, Kevin Diaz et Walid Acharchour. À tout de suite sur RMC.
C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps... Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens ?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bets en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Villas.
23h32, vous êtes sur RMC avec, j'allais dire avec Xavi Simons, mais non, il n'est pas là. Avec Walid Acharchour, avec Kevin Diaz et avec un homme qui a presque la même coupe que Xavi Simons, c'est Johan Crochet, bien sûr. Avant, on va rester un peu sur Gakpo, puisqu'on a Boris qui nous a appelé au 32-16 et qui voulait en parler, qui est supporter des Oranges. Salut Boris.
Salut Nicolas. Et salut à tous. Déjà, je suis très content de vous avoir, vous, parce que pour moi, là, je suis entouré de super chroniqueurs avec Johan Crochet.
Ah, c'est sûr. Quand là, t'es sur RMC, mon pote. T'es pas. On va pas donner le nom. On va juste donner les initiales. RTL, tu vois, par exemple. Mais non, je plaisante. Je les embrasse. En plus, on les embrasse. On les aime bien. Alors, Boris, tu voulais parler de Gakpo.
Oui, entre autres, pour moi, Gakpo, déjà, c'est un joueur qui est très bien rentré dans son Euro dès le début, dès le premier match, et qui a montré à la Coupe du Monde 2022 qu'il était capable de tenir le rang quand ça comptait, en tout cas avec sa sélection. Et Gakpo, pour moi, c'est la clé. Je pense qu'il n'a pas eu assez de ballons lors des précédents matchs. Si vous avez vu les matchs aussi comme moi, vous avez pu voir qu'il est très efficace lorsqu'il a le ballon, et à chaque fois, il peut créer une situation dangereuse. Et si on regarde les circuits de passe dans les stats avancés, on voit qu'il a rarement la balle. Donc ça a été un petit peu mieux contre la Roumanie. Je pense que la clé va venir de là contre la Turquie, notamment sur l'entrée de match. et aussi parce que la défense à droite turque, voilà, on n'a pas des noms ronflants, on a Kadıoğlu qui est de l'autre côté. Là, pour moi, il y a un coup à jouer dès le début là-dessus. Voilà, je sais pas vous, votre avis. Après, je pense qu'il y a, on manque un petit peu de taille au niveau de nos attaquants. Donc, j'irai pas jusqu'à mettre Weghorst.
Bah oui, il est là. Bah oui.
Il est là, mais il rentre en cours de match. Il est très
bien. J'ai trouvé les cinq de derrière turcs très, très solides. Muldur et Kadıoğlu.
Moi, je t'avoue que j'ai pas du tout reconnu par rapport au match du Portugal, par exemple. Ah oui, où ils avaient sombré totalement.
Muldur n'était pas là. Il y avait Demiral,
bien sûr. Qui sera pas là, il est suspendu, du coup.
Avec sa célébration. Bon, quoi, oui, ouais. mais globalement, c'est vrai que j'ai trouvé mon Abdul Karim le 14 très très bon aussi vraiment, il a été, moi j'ai trouvé énorme dans la surface de réparation. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros gabarits, ils t'attendent. C'est pas par les centres, je pense que tu vas leur faire très très mal.
Oui, mais faut jouer sur les combinaisons.
Au sol.
Il y a Xavi Simons qui revient en forme à ce niveau-là. Il est toujours bien placé. Il lui manque maintenant le dernier geste pour réussir à conclure enfin un but.
Elle est dure à lire un peu la compète de Xavi Simons. Hein. Parce que des fois,
alors vas-y, parlons-en un peu. Ouais. Vas-y, Johan, est-ce que tu dirais toi,
il a commencé doucement.
Ouais. Est-ce que tu dirais toi, Johan, que c'est déjà un taulier des Pays-Bas? Je rappelle, il a que 21 ans, Simons.
Non, il peut pas être un taulier encore. Par contre, c'est un joueur très déséquilibrant et avec évidemment les bons côtés parce que c'est ce type de joueur-là assez créatif. T'emmène toujours sur des 1 contre 1, t'emmène toujours sur de la vitesse, du dribble, et donc peut faire beaucoup de différence dès qu'il y a un petit peu d'espace. C'est pour ça d'ailleurs que la Bundesliga et l'Eredivisie lui convenaient très bien. Par contre, dès qu'il doit être un petit peu plus structuré, un petit peu plus réfléchi, un petit peu plus dans l'analyse de la situation et du bon geste au bon moment, quand les espaces sont beaucoup plus fermés, il a encore un peu de mal et c'est là-dessus qu'il doit progresser. C'est ce que je disais après le match des Pays-Bas mardi soir. Pour moi, ce joueur-là, s'il réussit à acquérir cette réflexion et cette capacité d'analyse, il deviendra un très bon joueur de football. Alors il est déjà bon, il n'y a pas de souci, il fait déjà des différences quand on prend en plus tout ce qu'il fait à Leipzig. J'ai retenu quelques stats au-delà même de ses simples buts et passes décisives. Il est impliqué sur 19 buts en championnat, mais quand vous prenez la capacité à créer des occasions de but et à emmener ses coéquipiers vers un tir, c'est le deuxième meilleur sur cette qualité-là en Allemagne, devant un Florian Wirtz par exemple. Si vous prenez sa capacité à dribbler et à gagner des 1 contre 1, il est deuxième en Bundesliga sur cette stat-là. Sur les accélérations et le fait de porter le ballon et avancer le ballon au pied, il est troisième derrière un joueur comme Frimpong. Donc voilà, c'est un joueur qui, on connaît ses qualités, on sait ce qu'il peut amener. Par contre, là où ça devient un petit peu plus fermé, un petit peu où il faut un petit peu plus réfléchir, être un peu plus patient aussi et être plus dans l'analyse, il a un peu de mal. Et c'est ce qu'on voit à l'Euro. Les Pays-Bas ont parfois affronté des équipes qui étaient un peu derrière et il a eu plus de mal à exister. Et il sera très important. Et Depay aussi, pour revenir à ce que disait notre auditeur sur la taille et la défense turque, ce que vous évoquiez également avec Walid, Depay va être très important hein, parce que faire sortir les défenseurs de leur ligne défensive. Essayer de les aspirer avec des décrochages permanents, ça va être très important. Et c'est pour ça que j'aurais aimé, par exemple, qu'un Zirkzee joue aussi contre la Turquie. On verra si c'est le cas. Mais lui, il est en capacité d'amener ça aussi.
Vas-y, Walid.
Non, je disais que sur Xavi Simons, c'est vrai qu'elle est dure à lire sa compétition parce que moi, il faut avouer que Xavi Simons, je l'imaginais pas à ce niveau-là au PSV Eindhoven et à Leipzig en club. Moi, pour moi, c'était un joueur Instagram surfait.
Notamment, j'étais un peu comme toi, moi. Ouais, toi, t'es du genre à juger les gens, toi.
Non, laisse-moi terminer. Je vais aller dans le positif en plus. Mais à l'époque, hein, tout ce qui s'était passé autour de son transfert au Paris Saint-Germain. Non,
et d'ailleurs, on en parlait d'ailleurs en antenne avec Johan, mais les histoires du contrat signé avec Nike où il était très jeune, c'était encore un gamin. C'est vrai que t'avais l'impression que c'était un joueur un peu fabriqué,
la surexposition avec Mino Raiola qui est à l'époque notamment m'avait un petit peu dérangé pour être honnête, et puis je me suis dit on va voir ce que ça donne, et puis même ses premiers matchs avec le PSG j'avais pas été transporté du tout. Après quand je vois la transformation physique qu'il a eu au PSV Eindhoven, même si attention moi je me méfie, bon je suis en présence de Kevin et de Johan, mais souvent je dis qu'un joueur qui performe en Eredivisie, souvent les statistiques, moi je les divise par deux quand ils vont dans des gros championnats. Donc la même chose, je dis ok, PSV Eindhoven impressionnant, mais on va attendre un petit peu. Là, Leipzig, ce qu'il fait à Leipzig, même si on pourrait avoir même le même raisonnement pour l'Allemagne sur les statistiques, je me dis mais déjà en Ligue des Champions, sur la phase de poule, purée, ouais, c'est un très très beau joueur. Donc en fait, quand je le vois là actuellement, j'ai du mal à le juger parce que je me dis, bon, déjà, je trouve qu'il a rattrapé par son retard, mais en tout cas, moi, dans mon esprit, je le voyais pas à ce niveau-là. Sauf que là, en fait, l'appétit vient un peu en mangeant. C'est-à-dire que maintenant que je l'ai vu faire des très, très belles choses, des fois, je suis un peu frustré sur ces matchs parce que je trouve qu'il se déplace très bien, je trouve qu'il est souvent dans la bonne zone, mais parfois, il se regarde un petit peu jouer, parfois, il a un peu le syndrome Memphis Depay, il va essayer de faire le beau geste plutôt que le geste efficace, et il fait parfois quelques mauvais choix aussi, et c'est vrai que je me dis que...
Tu te souviens, Walid, sur le centre en retrait de Dumfries contre la Roumanie?
Ah oui, il doit juste
frapper fort, il fait 4 touches de balle avant de
s'en mêle les pinceaux, il s'en mêle les pinceaux à ce moment-là. Cette action, elle symbolise ce que je veux te dire.
Moi, si je peux te répondre, moi, je pense pas du tout qu'il a le syndrome Memphis Depay. Il peut avoir tendance, peut-être.
Tu sais, il fait un coup du foulard.
Il a un petit côté, Joga Bonito, mais pas comme Depay. Depay, il est vraiment, des fois, tu vois, il est ailleurs. Des fois, il est un peu sur la lune. Mais je le trouve quand même, il a que 21 ans.
Oui, très, très jeune,
très structuré. Je pense qu'il est très. Je te parlais de cette petite vidéo. J'ai l'impression qu'il est très. Je sais pas, Johan, ce que t'en penses, mais j'ai l'impression qu'il est très apprécié dans le groupe. J'ai l'impression qu'il fait quand même preuve d'humilité et qu'il a quand même de la maturité et que c'est un vrai bosseur et que lui, il est déterminé à y arriver.
Mais la suite de sa carrière m'intéresse, même si bon, c'est son histoire de contrat.
Peut-être pas aller au Bayern.
Le Bayern, attention. Parce
non, mais c'est surtout qu'on ne sait pas véritablement parce que c'est des contrats sous sein privé. On ne sait pas si.
Moi, ça m'a saoulé complètement.
Si le PSV a un pourcentage à la revente.
J'ai rien compris.
Si le PSG a une option de rachat,
j'ai rien compris. Ouais,
c'est les contrats de Raiola, c'est normal, Walid. Ouais. Personne ne comprend.
Ça m'a fané complètement parce que déjà, moi, je le voulais au Paris Saint-Germain. Au-delà de ça, hein, c'est qu'on comprend véritablement. En fait, pas ce qu'il va faire. Il y a pas de visibilité sur sa carrière.
On ne sait pas à qui il appartient.
Là, on parle du Bayern Munich, mais on dit qu'il va aller en prêt au Bayern Munich. Je comprends rien du tout. Et ça me dérange un petit peu, même si ça me déchauffe pas sur la qualité du joueur.
Rien à voir avec le genre.
Bien sûr. Mais voilà, même sur cette compète, des fois, je me dis ah, c'est bien ce qu'il fait. Tu vois, par exemple, il termine à 2 passes D sur le dernier match contre la Roumanie. Bon, les passes D, c'est pas véritablement des passes décisives, parce que derrière Malen est rapide.
Ouais, mais il est toujours entre les lignes. Il est disponible.
Oui, voilà. Donc j'ai envie d'être positif avec lui, mais parfois sur le terrain je suis un peu frustré. Et maintenant la suite de sa carrière m'intéresse beaucoup. C'est très très encourageant. Oui.
Et d'ailleurs c'est intéressant que Koeman choisisse de le mettre derrière l'attaquant et non plus simplement à droite, parce que quand il a commencé avec les Pays-Bas c'était beaucoup à droite dans un 4-3-3. Là c'est plutôt derrière l'attaquant dans une sorte de numéro 10 assez libre de se déplacer, puisque c'était Bergwijn à droite et puis après c'était Malone contre la Roumanie. Et peut-être que là c'est là où il va peut-être avoir plus de difficultés parce que moins d'espace, mais c'est là où il va le plus progresser sur les points que j'ai énoncés tout à l'heure. C'est-à-dire jouer de plus en plus rapidement, ne pas multiplier les touches de balle, bien lire les situations, ne pas hésiter à faire un simple appui remise et laisser le jeu tranquillement se dérouler et pas chercher à chaque fois à faire la différence et à foncer tête baissée.
Tu vois, par exemple, ce que fait Reinders sur la première mi-temps contre la Roumanie, alors c'est un tout autre profil et un peu plus bas, mais c'est fait pour le jeu, en fait. Il respecte totalement le jeu et parfois, Xavi Simon, je trouve qu'il le fait pas tout le temps à bon escient.
Tiens, je voudrais juste avoir ton avis, Boris, sur Xavi Simons.
Alors, Xavi Simons, il a été mis au poste où il a été le plus efficace sur les 2 derniers matchs. Donc, sur sa rentrée en remplaçant Vermaan contre l'Autriche. Et ensuite, il est resté sur cette lancée. Enfin, Koeman est resté sur cette lancée en le plaçant en poste de sorte de numéro 10. Effectivement, là, il est beaucoup plus au cœur du jeu avancé. Quand on joue contre un bloc bas, c'est intéressant de pouvoir avoir des dédoublements. Et surtout, un joueur qui a quand même l'intelligence de se placer dans les différents espaces, de remiser, de faire les bons choix. Alors effectivement, c'est pas un attaquant de métier. À l'origine, c'était quand même quand il était jeune, il jouait poste plutôt 8, vraiment milieu de terrain. Et il n'a pas l'instinct du buteur. Vous avez parlé tout à l'heure de l'action sur la passe de Dumfries, mais il y en a une deuxième où il fait la même chose. Il peut tirer tout de suite, il tire pas tout de suite, il essaye de se remettre sur son bon pied. Voilà, il n'a pas cet instinct-là, mais peut-être que ça viendra avec le temps, avec le travail, parce que Kevin l'a dit, c'est quand même un gars bosseur. Bosseur. Et tout à l'heure, vous avez parlé, quand je vous écoutais, vous parliez de la bonne ambiance. Cette bonne ambiance qu'il y a dans le groupe. Alors, est-ce que c'est qu'une façade? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça transparaît. Et c'est le cas depuis 2022, à l'époque où il y avait Luis Van Gaal et Xavi Simons. Je pense qu'il contribue à cette bonne ambiance.
Voilà, comment ça se fait que tu es supporter des Pays-Bas, Boris? Ça vient d'où? C'est tes origines?
Non, c'est pas mes origines. Je suis, comme je disais au standard, je suis fan des Pays-Bas depuis l'Euro 2000.
D'accord. C'était voilà, chez eux d'ailleurs.
J'étais jeune. Ouais. Non, mais c'est vrai, il y avait une grosse ambiance, etc. Et puis j'ai.
Mais tu parles et tout, pas du tout. Tu parles le néerlandais.
Non. Et d'ailleurs, je prononce pas aussi bien les noms des joueurs que que Johan. Hein. Non, mais c'est mon grand père était fan parce qu'il avait connu l'époque 74, 78, 88, etc. Je suis devenu fan. Je suis devenu fan à cette époque. Moi, c'était en 2000.
Je conseille à tout le monde d'aller voir un match avec les supporters néerlandais. Parce qu'ils sont vraiment
déjà
drôles.
Quand tu vois l'ambiance dans les rues et tout, t'as trop envie. Mais t'as pas envie d'être néerlandais, sérieux?
Les vidéos.
Les vagues oranges et tout, c'est un truc de ouf.
Après, faut savoir que les vagues oranges, en fait, c'est, je crois que c'est le 29 ou le 30 avril, c'est la fête de la reine ou la fête du roi.
Le roi, ouais.
Et donc, en fait, si tu fais un drone au-dessus des Pays-Bas, les Pays-Bas sont oranges, en fait, tu vois. Ouais. Et c'est tout le monde dans la rue, la musique, tu vois, les musiques comme ça. Ils aiment trop ça.
Ils boivent que de l'eau, d'ailleurs.
Ils aiment trop ça.
Du jus d'orange.
Et bien sûr qu'ils boivent que de l'eau.
Du jus d'orange, bien sûr. Merci, Boris, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
À bientôt, Boris. Tu reviens quand tu veux.
On fait une victoire samedi soir.
Eh ben écoute, on te le souhaite. Enfin moi j'ai des copains turcs donc je sais pas trop en fait. Donc voilà.
Ça va être un match excitant.
Ouais, ça va être un match. Je te dis. Merci Boris.
Pays-Bas.
Ouais, comme il a dit Walid hier. Et en plus ils vont jouer à Istanbul.
Ouais, c'est ça. c'est la Vodafone Arena samedi.
Johan, tu voulais dire rajouter un truc mon gars?
Très bonne imitation.
Ouais, on fait ce qu'on peut.
Ouais, non, je voulais simplement évoquer que Pierre Van Hooijdonk ce soir explique tranquillement.
T'as quel joueur? Mais lui, c'est un dégommeur. Autant, en fait, lui, il déglingue autant à la télé que ses coups francs quand il était joueur, c'est ça?
C'est ça. Mais ce soir, il a expliqué que pour lui, les Pays-Bas gagneraient l'euro.
Ah ouais, carrément. D'accord, ok.
Ah oui,
après avoir démonté la sélection il y a 15 jours.
Les Pays-Bas, c'est bien. C'est
tout rien, en fait.
Non, c'est d'ailleurs, c'est une expression dans les 5 dernières minutes. Alles of nix. C'est tout ou rien. Ah ouais, et vous verrez que souvent, les équipes néerlandaises, hein, l'Ajax y compris, font monter le défenseur central. C'est-à-dire qu'ils me font monter un des défenseurs centraux devant pour finir les actions.
Et genre en mode, tu veux dire dans le jeu, quoi.
Dans le jeu. Ah ouais. Et donc là, tu as tout le stade qui crie « Alles of nix, Alles of nix, olé olé
ah ». Il y a un compte Twitter qui me régale, moi, hollandais, et qui relate un peu les émissions... hollandaise, c'est-à-dire que
les extraits, les extraits, etc. Ouais, mais tout ça, ça y va.
Et moi, ça me régale à chaque fois parce que ça découpe les Van der Vaart. Je crois que Van Basten, Van Basten, je crois que c'est un.
C'est Van Bastos.
Ah ouais, sur Cole Palmer. Après le match contre l'Angleterre, il dit, c'est un bon petit joueur, lui. En gros, il découvre Cole Palmer. C'est son premier match.
Mais d'ailleurs, Johan, t'en as déjà parlé de ça que lui, en mode, il suit pas du tout Van Basten en vrai aujourd'hui.
En gros, le mec, il vient juste pour les compétitions et ça me régale parce que les anciennes légendes comme ça qui viennent en disant, non, mais lui, il a quelque chose, lui, Cole Palmer.
Pas mal, le petit.
Il venait de démarrer. Et
mais Walid, avant le début de l'Euro, il est sur le plateau de la télé publique néerlandaise et il y a des débats sur quelle équipe doit aligner Koeman, etc. Donc tout le monde commence à parler et puis vient Van Basten. Et puis là, il fait je sais pas trop parce que j'ai pas trop travaillé avant pour savoir qui allait jouer. Donc
il pourrait faire comme nous, il va dire.
Et après, il dit, je suis d'accord avec, en parlant d'un chroniqueur, avec telle personne, et il s'est même planté de prénom de la personne autour de la table.
Ah ouais, génial. Le mec, aucun respect. Ouais, zéro respect.
Bon. Mais il avait une volée de dingue.
Ils auraient, ça, c'est sûr.
Et pas que des volées.
Merci beaucoup, Yo, d'avoir été avec nous.
Ciao, ciao, les gars.
Bonne soirée, Johan. Dans quelques instants, les infos du jour, pas mal d'infos mercato, notamment qui sont tombées, qui concernent l'Olympique de Marseille, c'est ce qui te fait marrer. Dans l'émission, il n'y a pas un Walid von de Cherchour. Pas mal comme place.
Von den Cherchour.
Van Diaz aussi.
Van de Cherchour.
Van Diaz. Van der Diaz. Van der Diaz.
Van der Diaz.
Je vais le dire. Van, ça suffit, non?
Non, mais il m'avait surnommé Van der Diaz à mes débuts dans l'after.
Van der, ça veut dire quoi?
De quelque chose.
De quelque chose.
Et Van, c'est quoi?
Van der.
Van.
De, je t'ai dit. Van der. Ça veut dire, si tu dis Van der.
Mais Van, ça veut pas dire fils, un truc comme ça, non?
Alors, par exemple, tu vois, Van der Wolfinkel.
Ouais.
Ouais.
Van der Sar, ça veut dire de quelque chose, mais Sar, je sais pas ce que ça veut dire.
Mais Van, ça veut pas dire fils.
Hein?
Ça veut pas dire fils, Van.
Van?
Ouais, ouais.
Non. Son.
C'est Son là-bas aussi? Ça n'a rien à voir, en fait.
Zone.
J'ai rien compris.
Zone. Z-O-O-N.
Donc, j'ai rien compris.
Ça veut dire de, comme
de. Quelque chose.
De Kersauzon.
Voilà. Donc, Van der, c'est juste
de Parmentier.
D'accord, ok.
En fait, pour dire deux, ils ont besoin de quatre mots, frérot. C'est ce que je te dis.
Van der, ça veut dire que t'es de là-bas, quoi.
D'accord, ok.
Je sais pas moi, Van der Amsterdam, c'est quelqu'un, c'est comme si tu t'appelles Walid de Amsterdam.
D'accord.
Voilà. Okay. Ah ouais, d'accord.
Très bien.
D'accord.
J'ai appris quelque chose.
Allez, les infos du jour dans un instant avec Kevin Diaz et avec.
Moi, je suis Van der Sandy,
Van der,
quoi.
Van der Saint-Bord. Van der RMC.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Villas.
En compagnie de Kevin Diaz et de Walid Acher sur les dernières minutes de cet after. Je vous rappelle que demain il y a les quarts de finale de l'Euro, hein, match entre l'Espagne et l'Allemagne à 18h, France-Portugal à 21h. Quelques infos du jour, pas mal d'infos mercato notamment. Il y en a pas mal à Marseille, ça continue de s'agiter sur le mercato, on l'avait déjà évoqué hier. Sachez que l'OM est proche d'un accord avec Youssef Attal, l'international algérien qui avait quitté Nice pour la Turquie il y a quelques mois et qui est libre actuellement, genre de 28 ans, qui pourrait être le remplaçant de Jonathan Clauss, qui pourrait quitter Marseille cet été. Donc il pourrait qu'il rejoigne l'OM. T'as l'air sceptique.
Bah, c'est quand même un joueur qui a eu beaucoup de blessures, donc ouais. Compliqué à recruter.
Selon toi, t'aimerais qu'il vienne ou pas?
Enfin, tout dépend. Encore une fois, moi, je l'aurais pas fait, mais l'histoire de Youssef Attal, c'est que il a 28 ans.
Ouais.
28 ans, et je crois qu'il est pas, il a pas plus de 20 matchs sur ces 5 dernières années, pas en cumulé, mais par saison. La fiabilité du joueur, moi je l'ai vu sur les derniers matchs, notamment contre avec l'Algérie. Physiquement, on n'est plus sur Youssef Attal de ses débuts à Nice. Donc, à voir s'il se retape. Mais sincèrement, moi, son état physique me pose question et sa fiabilité me pose question.
Alors, il y a certains supporters de l'OM également qui ont rappelé aussi, qui étaient un peu émus par rapport à la condamnation dont il avait été la cible lorsqu'il était à Nice. Hein, vous savez, pour ce qu'il avait partagé sur les réseaux sociaux. Il y a un autre joueur de l'OM, alors qui lui aussi avait eu des démêlés avec la justice. Enfin, joueur de l'OM qui est annoncé à l'OM. C'est Mason Greenwood, vous savez, qui avait été une première fois accusé de violence conjugale, notamment, qui finalement avait été, dont les poursuites finalement avaient été abandonnées. L'OM qui aurait formulé une offre, hein. Je rappelle que le joueur avait été prêté à Retafe par Manchester United la saison dernière. Il a fait d'ailleurs une belle saison avec Retafe. L'OM qui aurait déjà formulé une offre qui serait supérieure à celle de la Lazio. Le problème, c'est qu'United, ils en réclament 40 millions d'euros et que l'OM est loin, pour l'instant, est assez loin du compte.
Ils peuvent pas prêter.
Ils sont concurrents avec la Lazio de Rome, je crois.
Oui, il y a la Lazio qui a fait une offre, c'est ce que je viens de dire, mais c'est pas grave.
Je crois qu'ils sont en concurrence avec la Lazio.
Il y a la Lazio aussi, ouais.
Ils sont en concurrence avec la Lazio.
Il y a la Lazio apparemment qui est dessus également. Il a fait une très bonne saison avec
les Italiens, avec qui sont
un club de Rome, non?
Autre dossier, c'est celui du gardien. L'accord entre l'OM et Koum a été trouvé pour le transfert de Paulo Lopez. Et là, en revanche, on devrait avoir un prêt avec option d'achat. L'OM en voulait une petite dizaine de millions d'euros. On est plus proche des 5 finalement pour l'option d'achat.
Je comprends pas. Paulo Lopez, il vaut 10 millions d'euros.
Non, justement, il va en valoir 5 finalement.
Ah, ok.
Voilà.
C'est comme, ils l'ont acheté comme 13, je crois.
Ouais, comme qui a été promu en Serie A.
L'équipe de Fabregas.
Ouais.
Et moi, je pense que c'est une bonne idée de faire un reset de la saison dernière. Et je pense qu'il y a un gardien meilleur à aller chercher sur le marché.
On avait écouté hier Brissamba, notamment.
Après, il faudra voir Brissamba par rapport à son salaire, notamment, s'il n'a pas des offres en Arabie Saoudite. Mais même un joueur comme Ilan Meslier, qui a 24 ans. Moi, je pense que l'Olympique de Marseille, notamment avec De Zerbi, doit refaire son effectif et doit le rajeunir. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec Lilian Brasset qui a 23 ans. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'ils ont un coach qui va faire progresser les joueurs. Et derrière...
Si on parle que du sportif, pour ce que tu as dit, Nico, moi, Greenwood, que sur le sportif, ouais, en tout cas, sportif, je valide. Ouais. Par contre, Attal, non. Pour moi, c'est trop risqué de prendre un joueur qui s'est quand même très
blessé. Il y a l'aspect moral avec ce qui s'est passé notamment.
Le joueur de foot a
des grosses qualités. Ouais.
Alors il y a pas mal d'autres blazes qui sont annoncés ces derniers jours, voire ces dernières heures. Selon Sky Sports, il y a Valentin Carboni, qui est un milieu offensif de 19 ans, qui appartient à l'Inter, qui avait été prêté à Monza la saison dernière, qui serait l'un des dossiers prioritaires de Pablo Longoria. Et autre nom annoncé à l'OM également aujourd'hui, c'est le Sud-Coréen Wang Hee-chan, qui est un joueur qui est pas mal d'ailleurs. Il a claqué 12 buts la saison dernière, joueur de 28 ans, mais là pareil.
12 buts en première ligue, c'est bien quand même.
Ouais, mais après pareil, ça a un coût quoi en termes de salaire et de transfert.
On va voir si tout ça se concrétise parce que pour l'instant, il y a beaucoup de noms qui sortent de la part de l'Olympique de Marseille, autour de l'Olympique de Marseille. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs et beaucoup d'agents qui veulent rejoindre le Marseille de Zerbi. Donc déjà ça c'est très très intéressant. On va voir aussi le sens des départs, s'il est des départs se concrétise. Paul Lopez, on en a parlé. On va voir Jonathan Clauss, Veretout, Kondogbia, les gros salaires notamment. Même à Aubameyang, la question va peut-être se poser, va sûrement se poser. Donc il faudra faire un état des lieux et un bilan dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.
S'ils peuvent mettre 12 joueurs dans le bus.
Là, je pense que cette année, il le faut.
Y a pas mal d'officialisations également aujourd'hui. Tanguy Ndombele à Nice, c'est fait. Il a signé jusqu'en 2026.
C'est étonnant.
Le genre de 27 ans.
C'est étonnant de le revoir à Nice. Moi, ça m'intrigue parce que moi, j'étais complètement sorti du train de Tanguy Ndombele. C'était un joueur que j'aimais beaucoup à Lyon, mais qui s'est complètement perdu. notamment dans ses transferts. Bon, enfin,
il était à Galatasaray.
Il était à Galatasaray, à Tottenham notamment, Napoli où c'était très très irrégulier, l'hygiène de vie parfois pas très dingue. Mais moi, on m'explique qu'il est revanchard, qu'il a voulu couper son contrat à Tottenham pour vraiment retrouver un club et se remettre dans un nouveau cycle et qu'il a changé de mentalité. Donc, si on a le Tanguy Ndombele de l'Olympique Lyonnais du côté de Nice sous Francaise, c'est intéressant. Mais il va falloir le montrer sur le terrain.
Autre officialisation, c'est Moussa Niakate qui a signé à l'OL. C'est fait, transfert de 32 millions d'euros hein, pour le défenseur de Forest. Il devient la recrue la plus chère de l'histoire du club hors bonus. Avec
donc j'ai vu que là en fait Mangala et Niakate c'est entre 55 et 60 millions d'euros les deux.
On en est à 70 là depuis le début du mercato.
Pour Lyon. C'est quand même très très cher les deux, mais après Niakate, moi je l'ai déjà dit, au Sénégal notamment, c'est un vrai bon défenseur. Maintenant pour 30 millions d'euros, bon maintenant il est là, hein, mais 30 millions d'euros, le président de Nottingham Forest, il doit être bien content de ces deux ventes là.
Et autre officialisation, on l'avait évoqué également hier également, mais là ça a été annoncé par le LOSC, c'est fait pour Ethan Mbappé, voilà, qui avait été laissé libre par le Paris Saint-Germain, qui a signé 3 ans avec le LOSC également.
Ça aussi, ça va être intéressant à suivre. Ouais. Est-ce que Ethan Mbappé a le niveau pour jouer la Ligue 1 dans un club comme le LOSC, qui est plutôt bien structuré. J'aurais bien aimé le voir avec Fonseca, parce que je pense qu'il aurait encore plus progressé. Mais à voir avec aussi Genesio. Moi, j'ai toujours dit, je trouve qu'il a des qualités. Moi, je l'ai souvent été le voir en jeune, même si entre le football de jeune et le football de senior, professionnel, c'est différent. Mais je pense qu'il a quelque chose à faire, au moins en Ligue 1, ce joueur.
Et juste une dernière info également, le nouvel entraîneur du FC Metz, puisque Bologna c'est officiel, il quitte le FC Metz, c'est Stéphane Le Mignon. Ouais. Voilà, moi j'adore ce mec.
Que je connais bien, ouais, parce qu'il était monté avec Concarneau, notamment l'année où le Red Star avait fait 3e, et c'était la meilleure équipe de football.
Très bon coach.
Ouais, il a une très très bonne réputation.
Un bon staff. Ouais, ouais. On connaît ses adjoints.
Ouais. Non, je l'ai pas. En tout cas, j'ai pas l'info.
Il a une très très bonne réputation. Il a une carrière linéaire. Je suis content moi qu'il aille à Metz, parce que Metz, je pense qu'ils vont avoir ils vont avoir une équipe pour essayer de monter l'année prochaine.
J'ai une info pour vous, j'attendrai que ce soit officiel, mais il aura de très bons adjoints, notamment un très très bon.
Que tu connais bien, c'est ça ?
Je connais très bien.
Eh bien écoute, ce sera à suivre en tout cas dans les prochains temps. Les gars, on va accueillir le gagnant de l'expérience RMC. Il s'appelle Fabien et il est en direct avec nous dans l'After. Salut Fabien !
Salut Fabien.
Alors toi mon pote, t'as envoyé Euro 7 32 16 tout à l'heure pendant les 5 minutes qu'on avait annoncé. Et alors là t'as gagné mon coco, le voyage pour aller à Munich pour assister à la demi-finale de l'Euro le 9 juillet prochain. Donc vol plus hôtel, la rencontre avec les équipes RMC avant le match et tes deux places pour assister à la demi-finale. C'est pas beau ça?
Oh, c'est top, c'est génial, c'est top. C'est top, voilà. Je peux remercier ma fille parce que j'ai été la chercher, elle a 14 ans, elle était de soirée avec des copines et c'est sous le chemin que j'ai entendu votre jeu et que j'ai joué et voilà.
Voilà, comme quoi faut. Voilà. Et bah écoute, comment elle s'appelle ta fille?
Elle s'appelle Lily.
Lily? Ah bah Lily en plus, c'est super, tu vois.
Un joli prénom.
Ouais. C'est un diminutif ou c'est vraiment Lily?
Ah non, c'est Lily, ça s'appelle Lily. Elle est en train de me regarder, elle a dit c'est pas vrai. Je parle de toi à la radio, attention.
Non, ouais, bah, en tout cas, merci Lily, merci pour papa. Tu vas avec qui du coup alors à Munich? Avec Lily?
Alors je sais pas encore, non, parce que. Ah, moi j'ai deux fils, deux fouteux qui ont 8 et 11 ans, mais faire le choix entre les, entre les deux, c'est un peu compliqué.
Bah, c'est Lily qui est égale.
Mais non, tu sais quoi, vas-y avec un pote, laisse tomber. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux.
Sinon, tu les laisses y aller tous les deux.
Ça,
8 et 11 ans, ouais. Non, toujours le fils aîné, toujours le fils aîné.
Ouais, bah, j'ai déjà fait le stade de France, ça avait créé des quelques crispations il y a 2 ans pour la finale d'Antis. Nice,
en tout cas, belle demi-finale à toi, bravo. Okay, Fabien.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci, super. Bonne soirée, raccroche pas, merci. Merci Fabien, merci beaucoup Kevin.
Merci à toi Nico.
Merci Walid, Kevin. Merci Timothée.
Bon match, bon match demain, bonne journée de foot.
Ouais, merci Jérôme à la prod, et puis on se retrouve demain. Inch'Allah, comme on dit chez nous.
Forza France et allez le Portugal.
Ouais, vive à Portugal, ça suffit. Merci beaucoup, à demain. Bisous, bonne soirée, ciao.
RMC, l'After Foot, intégral euro.